Chers amis, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série et nous arrivons à l'étude numéro 8. Numéro 8. Et le titre pour aujourd'hui sera « Je crois ». En la Sainte Église chrétienne universelle. Point d'interrogation. Pendant des années d'études, un jour, je suis tombé sur une affiche sur laquelle était écrite « Oui à Jésus, mais non à l'Assemblée ni à l'Église ». Cette expression m'a touché profondément, car je savais que cela reflétait la conviction de beaucoup de chrétiens de ma génération. Nous étions en quête de vérité, mais nous savions en même temps que nous ne la trouverons pas dans nos églises. Au fil des années, je visitais des communautés différentes ayant des fondements et des contextes très variés. Toutes avaient comme but de réinventer l'Église. Tout ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai vécu dans ces endroits-là était en effet différent de la vie de la communauté dans laquelle je grandis et d'un moment à l'autre, ma communauté me sembla si ennuyante comparée à des petits groupes nouveaux et passionnants avec leur nouvelle vision de la Bible et de la communauté, comme ils célébraient les cultes assis au sol, si ouverts au monde et décontractés. Il me semblait que cette forme de communauté devait être bien plus proche du modèle des apôtres que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Dans cette période, je commençais à me poser les questions suivantes. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? La réponse à cette question est-elle vraiment importante? Et compte tenu de toutes les différences et séparations que j'avais vues dans le monde chrétien, je me demandais, est-ce que, en effet, la communauté a vraiment une signification. Selon la Bible, la communauté est l'unité de tous les rachetés, dit Erlösten. La Bible utilise beaucoup d'images et de comparaisons pour décrire cette unité, par exemple, en tant que famille de Dieu, peuple de Dieu, élu en tant que fiancé de Christ, communauté des saints en tant que nouveau Israël, et il existe bien d'autres termes. En bref, la communauté peut être décrite comme l'assemblée de toutes celles et ceux qui, en plaçant leur confiance en les promesses de l'Évangile, appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Quand je confesse, selon la confession de foi apostolique, que je crois en la Sainte Église chrétienne, je ne veux pas dire par cela que je mets ma confiance en l'Église ou ma communauté ou ma paroisse, mais que je fais confiance en Dieu qui a appelé à l'existence cette communauté des saints par son Esprit et sa Sainte parole. Ma confiance repose donc en Dieu seul. En confessant que je mets ma confiance en lui, je confesse également que Dieu s'est choisi un peuple saint et l'a rassemblé en communauté, dit Gemeinde. Donc, les deux termes utilisé le plus souvent pour le peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament, sont « à assemblée et communauté. La traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septuaginta, traduit les deux termes par ecclésia. C'est le même mot utilisé pour la communauté du Nouveau Testament. Les deux termes expriment un fait. La communauté, la paroisse, doit ses origines et sa forme à l'action de Dieu qu'il a appelé à l'existence. Au sens strict, cela signifie que la communauté, la paroisse, n'appartient ni à toi, ni à moi, elle est à Dieu seul. En théorie, des expressions telles que « ma communauté », « ma paroisse » ou « ta communauté » ou « ta paroisse » sont absolument faux. Cela nous amène à plusieurs faits importants. Le plus important est le suivant. La communauté appartient à Jésus-Christ seul et elle est sainte uniquement parce qu'elle lui appartient. Même si l'assemblée nouveau-testamentaire est la continuation du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, il y a entre eux des différences significatives dans la manière comment l'alliance de Dieu s'est transformée par la venue du Christ. Premièrement, les prêtres de l'Ancien Testament, les sacrifices, les lieux saints deviennent caducs par l'action expiatoire de la mort, de la résurrection et du règne de Jésus-Christ. Voyez Hébreux chapitre 1 à 10. Le croyant trouve en lui son identité en tant que graine d'Abraham, der Samen, participant ainsi au peuple de Dieu. Galates chapitre 3, verset 29 et 1er épître de Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. Deuxièmement, pendant que l'ancienne alliance concernait exclusivement l'ethnie du peuple Israël, Deutéronome chapitre 7, verset 6 et Psaume 147, verset 19 et 20, dans la nouvelle alliance, toutes les promesses en Christ furent transmises sur tous les peuples et nations. Notez Éphésiens chapitre 2, verset 17, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20 et Apocalypse chapitre 5, verset 9 et 10. Et troisièmement, l'Esprit de Dieu fut versé à la fois sur le chrétien individuellement, tout comme sur l'assemblée. De ce fait, la communion en Christ, selon 1 Jean chapitre 1 verset 3, le service à Christ, selon Jean chapitre 12 verset 32 et chapitre 14 verset 18, et ajouté Éphésiens chapitre 2 verset 17, et toutes les bénédictions spirituelles deviennent ainsi l'expérience de l'assemblée de Jésus. Lorsque nous confessons notre foi en la Sainte Église universelle, dit Allgemeine, die christliche Kirche, eh bien nous témoignons que nous croyons en l'unité naturelle de l'assemblée de Jésus, comme elle nous est décrite dans Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Notre confession est donc identique avec celle des chrétiens de toutes les générations précédentes depuis le temps apostolique, car nous confessons que nous sommes un, nous sommes vraiment un, parce que nous avons tous été immergés, baptisés dans le seul et unique corps de Christ par le même et unique Esprit. Nous confessons donc que nous croyons que l'Église chrétienne est la totalité des enfants de Dieu unis dans une foi commune en le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang, selon Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Dans un autre contexte, celui de l'histoire de la rédemption, dit Heilsgeschichtlicher Sinn, le corps de Christ comprend tous les rachetés, c'est-à-dire tous les sauvés, dit Erlösten, de tous les temps, aussi bien que celles et ceux demeurant dans le ciel, tout comme celles et ceux sur terre. Cette assemblée se trouve partout où il y a des chrétiens. Elle est une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, selon die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 7, verset 9. Le théologien néerlandais Herman Warwink a écrit ceci. Dieu s'est acquis dans sa grâce rédemptrice, die erwählte Gnade, une grande foule de toutes les générations, langues, peuples et nations. En effet, elle est faite d'individus que Dieu connaît personnellement par leur nom, mais il les unit ensemble de manière qu'ils forment le temple de Dieu, l'unique corps de Christ et l'unique fiancée de Christ. Le but de cette élection est la création d'un ensemble, c'est-à-dire une intégralité, la rédemption, le renouvellement et la glorification d'une humanité retrouvée qui proclame les bonnes œuvres de Dieu et qui porte son nom sur le front. Nous avons la gloire de Christ dans la communauté visible. En effet, de plus, la gloire de Christ, elle devient visible par la communauté de manière extraordinaire, pas à l'œil nu, mais par révélation divine. Donc Dieu nous a dit dans sa parole que ce serait lui-même qui bâtirait l'Église et pas nous. Notez Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et l'apôtre Paul nous éclaire dans sa lettre aux Éphésiens que la gloire de Christ est révélée dans la communauté et par la communauté. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et ainsi connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Donc, la gloire de Christ devient visible par la communauté. Mais de quelle manière? uniquement par la grâce de Dieu, salvatrice et transformante, par laquelle il nous unit en Christ. Cela est rien de moins et l'expression de la gloire de Dieu sur terre. Toutes celles et ceux qui sont rachetés par Christ font l'expérience de cette gloire. Ainsi, elle devient visible en et à travers la communauté des rachetés, l'Église, dit Gemeinde. Concernant la question, si la communauté était d'une quelconque importance, nous devons répondre oui, elle est importante, car Dieu lui-même la rend importante pour qu'elle renvoie à l'importance de Dieu. Donc l'Église est en continuelle dépendance de Dieu. L'existence et la pérennité de la communauté ne dépend jamais de circonstances politiques ou religieuses, mais seulement et uniquement de la puissance et présence du Saint-Esprit, et tous les deux sont un résultat de la grâce souveraine de Dieu. Toutefois, la communauté est un organisme vivant qui a besoin d'une certaine organisation. Dans le Nouveau Testament, on nous parle invariablement d'une communauté se réunissant à différents endroits, par exemple à la communauté à Éphèse, à la communauté à Antioche, etc. Quel est donc le lien de ces assemblées locales avec la communauté universelle? Eh bien, ici aussi, le théologien Hermann Barwink, il nous aide. Il dit, quant aux vertus merveilleuses par lesquelles les apôtres décrivent la communauté, plusieurs conclurent qu'il fallait distinguer entre l'état effectif et l'état idéal de la communauté. Mais une telle différenciation ne correspond pas à la pensée des apôtres. Quand ils suivent l'exemple de Jésus, qui parle particulièrement en Saint Jean chapitre 14 verset 17 d'une manière si grandiose de sa communauté, les apôtres n'ont pas une communauté à l'esprit qui n'existerait seulement dans l'imaginaire ou servirait comme image idéale à suivre et que nous ne pourrions jamais atteindre dans cette vie. Non, 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 les apôtres avaient toujours en vue la vraie, l'entière communauté, l'assemblée de tous les croyants en tout lieu et en tout temps. Et oui, cette véritable communauté était imparfaite à tout moment, et les lettres des apôtres en sont donc suffisamment, on peut bien le dire, suffisamment la preuve. Mais derrière son état imparfait, et croyez-moi, il y avait une réalité beaucoup plus grande. Dieu qui est en train d'accomplir son plan de génération en génération en elle. Et nous ne devons donc pas séparer ces deux vérités. Les apôtres ne parlaient pas sans raison, de manière double, en deux termes différents, de la communauté. L'assemblée à Corinthe est un bon exemple pour cela, où, comme James Parker le dit, elle était un exemple modèle de l'assemblée universelle en petit format. L'apôtre Paul décrit la communauté de Corinthe comme étant le temple de Dieu et le corps de Christ, et il dit que l'Esprit de Dieu habite en eux, voir 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, et chapitre 12, verset 27. Sachant très bien quelles difficultés il y avait parmi les croyants à Corinthe. Elle était quand même la communauté de Dieu. Nous devrions toujours garder cela sous les yeux. Nous avons tellement pris l'habitude de penser que Dieu habite dans chacun, dans chacune de ses croyants, que nous avons perdu de vue que chaque assemblée locale est un temple du Saint-Esprit et une partie du corps universel de Christ. Il y a un corps et plusieurs membres. Notez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 31. Il est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a donc disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, ceci afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, tous sont-ils apôtres? Or tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils vraiment en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez donc aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il y a donc un corps. Dans le verset 12, l'apôtre Paul introduit tout d'abord l'image d'un corps. Notre corps naturel est un, tout en ayant plusieurs membres. mais malgré toutes les différences qui, objectivement, sont nécessaires pour que le corps fonctionne, le corps n'est qu'un seul. L'apôtre Paul applique maintenant cette image à toute l'assemblée. L'unité de l'assemblée est fondée en Jésus-Christ, versets 12 à 14. C'est le fondement sur lequel sont basées les explications qui suivent. En Christ, nous sommes tous en tant qu'assemblée un corps, parce que nous sommes son corps. Et voici quelques pensées. Chaque chrétien appartient au corps de Christ. D'être un membre du corps de Christ avec tout ce que cela comporte, cela n'est pas un privilège de chrétien particulièrement actif et particulièrement doué, ni même le privilège des dits actifs plein temps. C'est uniquement l'œuvre expiatoire et réconciliante de Christ à Golgotha. C'est l'œuvre par laquelle nous devenons membres de son corps en premier lieu. C'est uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit que l'intégration dans le corps de Christ est devenue une réalité concrète. C'est uniquement l'activité souveraine de l'Esprit de Dieu qui a attribué à chaque chrétien des dons comme il le veut. Voir chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, qu'il a fait de lui un membre particulier du corps de Christ, afin que nous nous servions pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'unité du corps de Christ est une unité réellement existante parce que Christ est un, verset 12. Il n'est pas divisé et par conséquent, l'assemblée non plus peut être divisée. Unité ne signifie pas uniformisation ou uniformité. Dieu le Créateur est très créatif. Il aime la diversité. En conséquence, il a créé, il a doué et instauré les membres de la communauté de Christ de manière très différente. Il y a donc plusieurs membres. Dans la partie principale de notre texte, l'apôtre Paul entre dans la question de la structure du corps. Cela faisant, il clarifie toujours le rapport des membres individuels entre eux. D'une part, il montre comment Dieu l'a conçu en détail, et d'autre part, quels seraient les malentendus humains. L'apôtre Paul aligne donc trois malentendus. Voyons cela de plus près. Le premier, nous le trouvons dans les versets 15 et 16. Le pied dit, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» Et l'oreille dit, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. » Ne serait-elle pas du corps pour cela? Est-ce que c'est juste? Non, 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 bien sûr que non. Le problème ici est la non-acceptation des dons propres. Il s'agit de chrétiens qui aimeraient être doués comme celui-ci ou celui-là dans l'assemblée, dans l'église. Peut-être sont-ils exactement ceux qui rendent un service similaire au mien et que je regarde avec jalousie. Je me sens inférieur et inutile. Voici quelques exemples. L'un aimerait peut-être bien pouvoir prêcher plein de manière forte et dynamique comme le pasteur X. L'autre voudrait simplement pouvoir être hospitalier et accueillant comme le couple Y, chez lesquels on se sent toujours tout de suite très bien et où on peut aussi se permettre de vider son cœur. Ne sont-ils pas des dons bons et souhaitables? Bien sûr que ce sont des dons bons, parce qu'ils viennent de Dieu. Mais ce comportement n'est quand même pas juste. Dieu voudrait que nous servions par les dons qu'il nous a donnés, de tendre toujours vers d'autres dons, en méprisant les dons reçus, et finalement de la fausse humilité. L'apôtre Paul demande, les versets 29 et 30, il dit, « Est-ce que tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non, 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 je ne dois pas être un grand prédicateur ou puissant prophète pour servir Dieu pleinement dans son assemblée, dans son église. Peut-être que Dieu m'a attribué le don de prière et qu'il m'est beaucoup plus facile qu'à d'autres chrétiens de prier avec persévérance et grande foi pour certains objectifs. Pour la plupart du temps, c'est un service très discret qui se fait généralement dans l'ombre, c'est-à-dire en secret. Mais que serait notre assemblée, notre église, sans ces fidèles prieurs? Bien sûr, il appartient à la vie spirituelle de chaque chrétien de prier. Et pourtant, je suis content pour les nombreux frères et sœurs qui passent beaucoup plus de temps en prière que moi. Et par cela, ils ouvrent spirituellement les arrières de bien des services dans la communauté. Et c'est pour cela que la réponse de l'apôtre Paul est la suivante. Sois content avec ce que Dieu t'a donné. Ne te querelle pas avec Dieu en lui faisant des reproches, car il t'a attribué des dons et t'a placé comme membre comme il l'a voulu. Verset 17. Réjouis-toi donc tel que ton Père aimait, il est aimant, et tel il t'a fait, et sers-le donc avec ce qu'il t'a confié. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous a donné certains dons, eh bien vous pouvez le servir avec ses dons d'une façon merveilleuse. Dans le verset 17, l'apôtre Paul nous parle du deuxième malentendu. Par exemple, il demande, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Si tous avaient le même don, beaucoup de choses, autant nécessaires, resteraient sur le carreau. Et c'est pour cela qu'ici aussi, l'apôtre Paul dit un nom très clair. Cette pensée se rattache donc dans l'argumentation au premier malentendu. L'apôtre Paul cite en quelque sorte le cas extrême en disant « Si tous les membres ne voudraient plus accepter leur propre don et devenir œil, le corps ne se formerait que d'œil et beaucoup de choses manqueraient, évidemment. » Mais l'apôtre Paul parle également de la situation inverse. il parle des chrétiens qui sont convaincus que leur don, leur service est en fait le plus important. Leur problème, mon don, par-dessus tout. Si seulement tous les chrétiens étaient aussi doués que moi, eh bien notre Église croîtrait. Le réveil, si souhaité, aurait enfin lieu et il n'y aurait plus tous ces problèmes dans la communauté, dans l'Église. J'exagère sciemment pour exposer clairement le problème. Un exemple concret précisera un peu cette sorte de malentendu. Par exemple, tu maintiens le contact avec beaucoup trop d'incroyants en évoquant toujours ta foi. Tu les invites à des services évangélistes ou dans des cercles de maison. Ainsi, il arrive de temps à autre que des personnes se convertissent. Vient un jour, un grand évangéliste arrive dans la communauté et prêche. Chaque chrétien, un évangéliste, et explique qu'il est tout à fait normal si des incroyants se convertissent quotidiennement dans des entretiens. Mais, même s'il n'y a pas de conversion, un entretien par jour était tout de même un minimum. La plupart des auditeurs se sentent complètement mal à l'aise et voudraient juste disparaître. Même celles et ceux qui furent actifs dans l'évangélisation se demandèrent ce qu'ils avaient bien pu y faire ou ce qu'ils ont bien pu faire faux. Il est bien sûr indiscutable que chaque chrétien est effectivement appelé de témoigner de sa foi, de la transmettre évidemment, donc d'évangéliser dans un sens général. Mais il est également aussi certain que le chrétien individuel est loin d'être toujours un évangéliste. L'apôtre Paul demande « Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ?» Versets 29 et 30. Et nous pourrions rajouter sans autre « Tous sont-ils vraiment des évangélistes ?» Non, non, non. D'être évangéliste n'est que un service parmi d'autres, comparé Éphésiens chapitre 4, verset 11. On pourrait dire par analogie au verset 20 et 30, pas tous doivent être évangélistes pour faire partie intégrante au corps de Christ. Si en effet tous n'étaient que des évangélistes, énormément de dons et de services indispensables et essentiels manqueraient totalement. Finalement, la fausse attitude décrite ici par l'apôtre Paul est de nouveau une accusation contre Dieu. Pourquoi n'as-tu pas doué de dons tant de frères et sœurs comme tu l'as fait pour moi? Cela aurait été la meilleure des choses. Bien sûr que ces accusations sont en règle plutôt inconscientes, espérons-le. Je suppose que cela était le cas pour l'évangéliste cité plus tôt. L'apôtre Paul répond à nouveau. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu, verset 17. Et il sait sans doute beaucoup mieux que nous ce qui est bon et nécessaire. Le troisième malentendu, nous le trouvons dans le verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai besoin de vous. Voici donc le problème que l'apôtre Paul relève ici. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas vraiment besoin de mes frères et sœurs. Catégorie, on peut dire, c'est un monochristianisme. Et cette attitude aussi, cela relève de l'orgueil. Car là aussi, l'apôtre Paul répond, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, etc. Versets 29 et 30. Non, 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 bien des choses. Je ne le suis pas. Bien des choses. Je ne le possède pas. Je dépends donc des frères et sœurs. Et en particulier, de celles et de ceux qui sont, à mes yeux, des membres plus faibles. Ainsi, l'apôtre Paul parle à la fin de ce paragraphe d'une manière très particulière de la relation entre les membres, notez les versets 22 à 25, et il conclut « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux membres plus faibles. » Voir verset 24. Il parle des membres du corps qui paraissent être les plus faibles. Ils étaient spécialement nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, et encore. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Qui sont-ils donc, ces membres dont l'apôtre Paul nous parle? Il y en a qui pourraient peut-être voir le service de prière de cette sorte, selon la devise. Ce petit peu de prière n'est tout de même rien de spécial, pour le dire de manière exagérée. Mais vu à la lumière, le service de prière est tout au plus, en apparence, un service faible. Car parler avec le Créateur du ciel et de la terre n'est aucunement faible, oh non! Faibles sont au mieux nos paroles humaines. Pour un autre, il se peut que la tâche de nettoyage ait un service moins honorable. Mais en est-il vraiment ainsi? À quoi cela nous servirait-il si nous avions plein d'activités dans notre centre, mais nous enfoncerions dans la saleté? Ainsi, le service de nettoyer nous est très nécessaire. Aux yeux de quelques-uns, l'évangélisation dans les quartiers chauds serait peut-être indécent. Mais ce sont ses frères et sœurs qui ont besoin de l'appui et du soutien de la communauté chrétienne. Ils vont d'une manière très particulière dans les chemins le long des haies, Saint-Luc chapitre 14 verset 23, et font un service qui est vraiment, vraiment nécessaire. Quand nous honorons particulièrement les faibles, nous ne faisons que ce que Dieu fait, de disposer le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, verset 24. Et cela correspond pleinement au principe de Dieu qui choisit les choses folles du monde, oui, les choses faibles du monde, les petites et celles qu'on méprise. Voir, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29. L'apôtre Paul nomme le but de ce dispositif très particulier de manière très claire. 1. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et 2. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Cela semble évident, absolument évident. S'il y en a dans la communauté, dans l'Église, qui se voient particulièrement forts et puissants, et qui voient les autres seulement faibles, la division de la communauté est pratiquement programmée à l'avance. Mais cela ne doit pas arriver. Donner et prendre réciproquement dans le respect mutuel de l'autre et de son service est l'état normal d'une église. Puis l'apôtre Paul revient encore une fois sur le thème initial, l'assemblée, l'église est un corps, et cela a des conséquences. Et si un membre souffre, eh bien tous les membres souffrent avec lui, verset 26a. Est-ce étonnant? Non, car dans notre corps humain, ce n'est pas différent. Quand quelqu'un a de maux de tête, eh bien toute la personne en est touchée, on peut dire plus ou moins, aussi longtemps que les chrétiens succombent à un des trois malentendus mentionnés, le corps ne pourra pas fonctionner et tous en souffriront. Mais si au contraire, un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui, verset 26b. Qui exerce le service selon ses dons n'a plus besoin de s'irriter de tout ce qu'il ne sait pas faire, car il se réjouit dans son service. Et qui honore les dons et services des autres et se rend compte de son besoin de complémentarité, se réjouira également et transmettra. D'honorer le soi-disant plus faible en le remerciant simplement d'un service rendu, cela apporte beaucoup de joie des deux côtés. Dans le verset 27, l'apôtre Paul redit encore une fois explicitement que la communauté à Corinthe était un corps de Christ et chacun était membre pour sa part. Pourtant, elle n'est pas le corps de Christ comme si elle était l'unique au monde. Et cela nous amène à une dernière pensée. La communauté à Corinthe est un corps de Christ et en tant que tel, en même temps, elle est membre du corps de Christ universel, weltweit. Elle fait donc partie de la communauté universelle de Jésus. Il est donc clair que chaque communauté doit, en tous les cas, disposer de certains services, par exemple, évangélisation, enseignement biblique, prière, louange et d'autres. À part cela, il est tout à fait normal que chaque communauté, que chaque église a des priorités dans son service selon les dons existants dans l'église. Ainsi, elle servira finalement aussi les autres communautés, églises et le corps de Christ dans toute sa totalité. Et dans ce sens, nous pouvons nous engager dans le lieu où Dieu nous a posés et nous réjouir en même temps des choses que Dieu a données à d'autres communautés et de ce qu'il œuvre à travers elles. Nous arrivons à la conclusion. Pour terminer, je voudrais réunir quelques pensées importantes en quelques points. Les dons et devoirs sont inséparablement liés. Nous sommes appelés d'accepter la distribution des dons par Dieu. Chacun est nécessaire, mais à sa place. Chacun a quelque chose. Aucun ne possède tout. Les caractéristiques de la communauté de Jésus sont donc les suivants. Dans le temps, en son temps, on parlait de quatre caractéristiques, donc quatre traits de caractère par lesquels une communauté chrétienne est reconnaissable. Voyons cela maintenant. Premièrement, la communauté est une. Toutes les communautés dans le monde entier, sont bâties sur le même et unique fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement sur lequel elle pourrait être posée. On pourrait dire en conséquence, la communauté chrétienne est le corps de celles et de ceux qui reconnaissent le Christ comme leur tête. Voir Colossiens chapitre 1, verset 18. Un regard superficiel dans le monde chrétien nous montre beaucoup de dénominations qui apparaissent comme beaucoup d'églises différentes. Mais cette apparence de désunion n'évince pas le fait qu'en Christ, elles sont tout de même toutes une. Deuxièmement, la communauté est donc sainte. Le mot saint provoque pour beaucoup des maux de tête, car il est souvent interprété de manière à ce que les chrétiens se prennent pour plus saints que d'autres. Beaucoup pensent que la communauté chrétienne serait pleine de gens qui pensaient être meilleurs. Mais est-ce que la communauté de Jésus est vraiment sainte? L'Évangile nous dit clairement et sans ambiguïté que nous, les chrétiens, ne sommes pas saints parce que nous serions meilleurs ou que nous ayons accompli quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes saints parce que Dieu qui nous a appelés est saint. Pensons un peu à la lune qui brille de nuit, parce qu'elle reflète la lumière du soleil. La lune en elle-même n'est faite que de pierre morte, sans aucune luminosité propre. En quelque sens, nous les chrétiens ressemblons un peu à la lune. Nous reflétons la sainteté de Dieu, tout en n'étant toujours pas exempt de péché. Dieu lui-même nous a conviés dans la communion avec lui-même. Non, Jésus est venu pour appeler les pécheurs. Voir Matthieu chapitre 2 verset 17. D'être appelé par Dieu, cela nous donne aucune raison d'être fier ou d'être arrogant. Cela nous humilie plutôt, car Dieu appelle à lui des pécheurs par libre grâce et cela afin de commencer en elle, en eux, l'œuvre de la sanctification. Troisièmement, la communauté, c'est-à-dire l'Église, est universelle. Par cela, nous disons qu'une communauté existe depuis toujours au-delà de toute frontière, de toute ethnique, culturelle ou géographique, appelée par Dieu, par sa grâce, et réconciliée avec lui-même uniquement par le sang de son Fils bien-aimé. Et quatrièmement, la communauté, l'Église, elle est apostolique. Cela ne dit rien de plus que la description de Saint Luc qu'il nous donne et qui dit des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il dit « Ils persévérèrent, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La foi des apôtres au sujet de notre salut commun, notez Jude verset 3, et leur mission est « Aller et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Cela est, on peut dire, identique. Je répète, cela est absolument identique avec notre foi et avec notre mission. Le message de la communauté, l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, est de la plus grande importance à chaque époque, en toutes et en toutes circonstances. Il n'est pas nécessaire d'adapter l'évangile à une idéologie quelconque, à un trend ou à une culture. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau message pour chaque siècle et pour chaque société, car le message des apôtres est et reste un évangile éternel, et la puissance de Dieu pour le salut est de chacun pour chacune qui y croit. Donc, en prenant ces quatre caractéristiques de la communauté de Jésus dans l'ensemble, eh bien, nous trouvons la description de l'unique corps terrestre de Jésus qui est constitué, qui est composé par tous les croyants qui placent, eux, toute leur confiance en Jésus-Christ seul et qui reçurent ainsi le message et la mission des apôtres pour annoncer au monde perdu en tous les temps le seul, absolument le seul message, seligmachend des évangiles, le message de l'évangile qui va rendre et qui va transformer ceux qui l'écoutent. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par la prière. On a vu que prier, c'est présenter au Père les meurtrissures de son Fils. Quelle prière, faisant appel à ces meurtrissures de l'agneau, frappé pour notre rédemption, resterait inexaucée? Je vous le demande. Prions. Je loue et bénis ta toute-puissance insaisissable, ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui t'es laissé devenir impuissant dans la passion par amour pour nous les humains, je loue et bénis ta sagesse insondable qui t'a conduit à passer pour non désirable. Je loue et bénis ton humanité incompréhensible qui, en toute liberté, t'a amené à devenir la victime de la haine par amour pour tes élus. Je loue et bénis ta douce patience qui t'a fait subir la plus horrible des morts par amour pour nous. J'aime et j'adore ta belle douceur qui t'a fait goûter l'amertume de la mort. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. À bientôt. Au revoir.